Nous lisons dans Luc 17. Luc 17. À partir du verset 20, Luc 17, à partir du verset 20, il est écrit ceci. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Donc je recommence, je relis la réponse de Jésus. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici, ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et lorsque Goliath faisait son cinéma, lorsqu'il faisait ses menaces, je pense que les enfants d'Israël étaient en train de se dire d'où viendra la délivrance. Et nous revenons toujours à cette même réponse. La délivrance est au milieu de vous. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Parce que c'est Dieu qui est l'artisan, le roi de son royaume. Et il est écrit que le ciel et la terre sont remplis de la gloire de Dieu. Il est présent. D'ailleurs, notre frère Paul dit qu'il n'est pas loin de chacun, Dieu. Il est près de chacun, mais il faut reconsidérer notre façon de l'attendre, reconsidérer notre conception de son règne, de sa façon d'agir. Le royaume de Dieu, c'est le système de Dieu. C'est le système de Dieu. C'est la façon dont Dieu règne dans ce monde. Opère ses actes, opère ses missions. C'est ça le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est aussi l'environnement dans lequel Dieu travaille. Et lorsque nous lisons le livre de Daniel, Daniel nous parle du royaume de Dieu qui viendra comme une pierre sans le secours d'aucune main et qui va remplir toute la terre. Le royaume de Dieu est au-dessus de tout royaume. Mais ce que nous voulons partager, donc quelques principes de ce royaume, en premier lieu, c'est qu'il ne vient pas de manière à frapper le regard. C'est-à-dire que l'homme, avec ses yeux et son intelligence, est incapable de mesurer le royaume de Dieu, de le planifier ou de le prévoir. Il est incapable. C'est ce que Jésus veut dire aux pharisiens. Il n'y a pas une technique que je peux vous donner pour que votre intelligence puisse peser le royaume de Dieu, l'estimer, le calculer. Il n'y a pas de technique. Le royaume de Dieu vient d'une manière simple. C'est ce que Jésus veut dire. Vous, les humains, lorsqu'on parle de quelque chose de grand, vous vous attendez à ce que vos yeux voient quelque chose de grand. Mais moi, Dieu, j'ai aussi mes principes. Et ces principes ne correspondent pas à votre façon de voir. C'est ce qui est d'ailleurs écrit dans Ésaïe 55. Mes pensées ne sont pas vos pensées, dit le Seigneur. Et lorsque Pilate et Jésus est devant Pilate, nous lisons dans Jean 18, Jean 18, à partir du verset 28. Ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit donc pour aller vers eux. Et il dit, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent, « Si ce n'est pas un malfaiteur, si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Sur quoi Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs lui dirent, « Il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort. » C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont dit de moi ?» Pilate répondit, « Moi, suis-je juif ? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Voilà maintenant la réponse de Jésus. « Mon royaume n'est pas de ce monde, » répondit Jésus. « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Dans Luc 17, Jésus dit, « Ça ne vient pas de manière à frapper le regard. Ça ne vient pas de manière à impressionner l'intelligence humaine. Les regards là, c'est l'intelligence humaine, la façon de voir de l'homme. » Et ici, Jésus dit, « Son royaume n'est pas de ce monde. » Ça ne veut pas dire que son royaume n'agit pas dans ce monde. Il n'est pas de ce monde, c'est-à-dire qu'il ne ressemble pas au système de ce monde. Aujourd'hui, quand on parle de royaume, on voit un roi avec tous les gardes du corps, les soldats qui le protègent, avec tout un protocole. Mais Jésus dit, son royaume ne ressemble pas à ce système-là de ce monde. Son royaume n'est pas composé de soldats physiques humains. Il dit, parce que si mon royaume était semblable au royaume de ce monde, on ne m'aurait jamais laissé entre les mains de Juifs par mes soldats. Mais si aujourd'hui on me laisse entre vos mains, c'est parce que mon système n'est pas d'ici, mon système est différent. Et dans mon système, il est prévu que je sois livré entre vos mains. Bien-aimés, beaucoup de gens veulent servir Dieu, mais il est écrit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Beaucoup veulent servir Dieu, mais ils sont perturbés parce qu'ils ont l'impression que Dieu n'agit pas fortement. Ou alors, ils suivent des faux serviteurs de Dieu parce qu'ils ont une conception du royaume de Dieu comme celle d'ici-bas. Jésus dit deux vérités importantes. Ça ne vient pas de manière à frapper le regard. Deuxième vérité, le royaume de Dieu n'est pas de ce monde. Ça veut dire ne ressemble pas au royaume de ce monde. Il a son propre système qui marche en esprit, en vérité. Seuls ceux qui sont branchés peuvent constater, regarder, observer le royaume de Dieu. Mais ceux qui utilisent leurs yeux humains et leur intelligence ne peuvent pas saisir le royaume de Dieu. Certains me diront, mais oui, pourtant, on a vu quand même des exploits de Dieu. Mais oui, mais réalisez bien ces exploits, vous allez vous rendre compte que ça ne s'est pas passé comme dans le monde. Lorsqu'il fallait trouver un soldat pour se battre contre Goliath, ces gens-là étaient loin de penser que David, un enfant, pouvait se positionner. Ils cherchaient parmi eux quel est le vaillant guerrier qui allait combattre Goliath. Qui pouvait penser que c'est un enfant qui allait le faire? Même si à la fin, il y a une grande victoire, mais ça s'est passé dans la simplicité, avec cinq pierres ramassées et puis un caillou qui met fin au règne de Goliath. C'est quelque chose que les humains auquel les humains n'auraient jamais imaginé. Ils n'auraient jamais pensé à cela. Parce que le royaume de Dieu vient dans la simplicité. Vous savez, l'Esprit de Dieu, le mot « esprit » en hébreu, ça veut dire « vent ». Nous nous souvenons de Jésus, quand il a parlé à Nicodème concernant la nouvelle naissance, il lui a dit, le vent souffle où il veut. Mais tu ne sais, le vent plutôt souffle, et tu ne sais d'où il vient, ni où il va, mais tu en entends le bruit. C'est ça le royaume des cieux. Ce n'est pas quelque chose qui impressionne l'œil. Est-ce que vous avez déjà vu le vent? Qui a déjà vu l'air? Personne ne voit l'air. Mais nous en voyons les effets. Nous en voyons le travail. Et de temps à autre, l'air qui est invisible devient quelque chose de puissant qui terrasse des chars de combat, qui terrasse les avions. Vous savez, quand il y a un vent fort, les avions ne peuvent pas décoller. Quand il y a un vent fort mélangé avec le feu, même quand on envoie des canadaires, des avions de pompiers, ça n'arrive pas à éteindre le feu. Mais il suffit que Dieu envoie un vent contraire, ce vent contraire éteint le feu. Nous voyons que l'air qui est invisible, qui est simple, reste l'élément le plus important, le plus puissant des éléments naturels. Parce que sans air, qui peut respirer? Sans air, les avions ne volent pas. Sans air, aucun animal ne peut vivre. Et on voit comment l'air arrive à battre les avions, à battre les puissances, les grandes puissances. Lorsqu'il y a le vent, qui peut calmer la tempête? Personne. Pourtant, l'air est invisible. Le royaume des cieux, c'est la même chose. Il est invisible, mais son action est puissante. Il y a des moments où, maintenant, comme l'air aussi, ce royaume-là vient avec gloire et affecte aussi les yeux. Ça arrive. On a vu ça à la Pentecôte. Le royaume de Dieu est venu avec puissance. Ça a affecté les yeux. Donc même si tu n'étais pas branché spirituellement, les langues de feu étaient visibles. Et la prédication de Pierre était audible. Quand les apôtres plutôt parlaient, toutes les personnes les entendaient dans leur langue. Donc ils ont vu physiquement la manifestation de la gloire du royaume de Dieu. Mais ce n'est pas comme ça que tout le temps ça va se faire. C'est comme l'air. L'air est très important, plus important que les voitures. Plus important que tout. Cependant, il est invisible. Mais on en a besoin pour respirer. On en a besoin pour plein de choses, les avions, pour marcher, pour voler. Ils ont besoin d'air. Pour plein de choses, on a besoin de l'oxygène. Les arbres ont besoin d'oxygène. Pour faire du feu, il faut de l'oxygène. Mais il est invisible. Mais il est très, très important. Et il agit, c'est ce qui nous fait vivre. Qui aujourd'hui peut nier l'importance de l'air? C'est ce qui nous fait vivre. Le royaume de Dieu, c'est la même chose. Il est invisible, mais sa puissance est forte. Son action est forte. Mais simplement, cette action-là n'est perceptible que par les gens qui ont la foi en Dieu et qui ont l'humilité devant Dieu. C'est écrit, Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Seuls les humbles peuvent contempler l'action du royaume de Dieu. Les orgueilleux ne sont pas attirés par la simplicité. C'est ça qui se passe. C'est ce qui fait que notre chair, à un certain moment, est fatiguée de suivre le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu ne fonctionne pas comme notre chair. Quand j'entends qu'un joueur de football, pour quelque chose qui ne nourrit personne, c'est-à-dire qu'il joue avec une balle, quelqu'un, il est payé 20 millions d'euros par an, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Une telle somme pourrait aider beaucoup de pauvres, aider beaucoup d'œuvres chrétiennes. Mais c'est un joueur de football qu'il a et qui va dépenser ça. Comme j'ai entendu, il a acheté pour sa 27e année, son 27e anniversaire, une Lamborghini. Imaginez quelqu'un à 27 ans, il s'achète lui-même son cadeau, une voiture qui coûte 5 fois plus qu'une Mercedes. Vous vous dites, mais Dieu, c'est nous qui avons besoin de ça pour aider les pauvres, pour prêcher l'évangile, pour acheter des Bibles et les distribuer gratuitement. Mais pourquoi tu ne nous donnes pas? Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Il a sa façon d'agir. Voilà la réponse. Le royaume de Dieu n'est pas là pour impressionner. Le royaume de Dieu est puissant. Au fait, il est tellement puissant qu'il n'a pas besoin d'appui terrestre. C'est comme l'air. L'air est tellement important, il n'a pas besoin. Est-ce que vous avez déjà vu une publicité à la télé? Respirez, s'il vous plaît. Il n'y en a pas. L'air est tellement important que lui-même, il s'impose sur les gens. On n'a pas besoin de pub comme on fait la pub de Coca-Cola, la pub de telle boisson, de telle voiture. Pour faire accepter l'air aux gens, les gens eux-mêmes réalisent l'importance de l'air. Et ils respirent l'air sans s'en rendre compte. Et Dieu nous dit ce soir qu'il est au contrôle. Et que malgré tout ce qu'on voit, c'est quand même lui qui règne. De la même manière que, malgré tout ce qu'on voit, on peut voir un homme costaud gagner le Tour de France. Un grand boxeur, un grand footballeur. Mais ces gens-là, sans la respiration, ils seraient où? Ils seraient incapables de jouer. Malgré le fait qu'on a l'impression que autre chose est beaucoup plus visible que l'action divine, Dieu nous dit que c'est lui qui est au-dessus de tout. C'est lui qui est à l'origine, comme c'est écrit dans la parole de Dieu, du mouvement et de l'être. C'est lui qui est à l'origine du mouvement et de l'être. Tout est sous contrôle. Mais nous, chrétiens, je parle de ceux qui veulent vraiment servir Jésus dans la vérité, tout en étant humble, parce que quand on veut servir quelqu'un, on doit être assez humble pour le laisser nous montrer comment nous servir. Maintenant, si on veut servir quelqu'un, on lui impose comment le servir, alors là, il y a un problème. On est son propre serviteur ou bien le serviteur de la personne. Si on est le serviteur d'un patron, on doit laisser le patron dire ce dont il a besoin, de quel service. Il attend de nous. Mais lorsqu'on sert quelqu'un et on veut lui imposer de boire le Fanta alors que lui veut du jus de pomme, mais qui est serviteur de l'autre? Alors si on veut servir Dieu, écoutons Dieu nous dire comment lui il agit. Écoutons Dieu. Laissons-le faire. C'est ainsi que nous connaissons le fameux conflit entre Pierre et Jésus. Jésus dit, bon, je mourrai et puis le troisième jour, je ressusciterai. Ah, Pierre se fâche. Mais Seigneur, ne dis pas des choses comme ça. Jésus dit, mais Pierre, arrière de moi, Satan. Jésus veut laver les pieds. Il commence à laver les pieds des disciples. Pierre dit, Seigneur, toi me laver les pieds, c'est n'importe quoi. Je refuse. Jésus dit, mais Pierre, c'est moi qui fixe les choses. C'est moi qui vais fixer comment tu dois me servir. Ce n'est pas toi de me fixer. Jésus dit, si je ne te lave pas les pieds, Pierre, c'est fini entre toi et moi. Bon, Pierre dit, bon, il n'y a pas de problème, Seigneur. Voilà comment nous sommes. Nous voulons fixer à Dieu comment, la façon dont nous devons le servir. Nous voulons que ce soit A, que ce soit B, que ça passe C, que ce soit D. Et quand ça ne se passe pas comme ça, on se fâche. Ou alors quand ça ne se passe pas comme ça, on va écouter la voix du diable. Lui va nous proposer le royaume tel que ça se passe sur terre. On va écouter la mauvaise voix. Ou on te propose quelque chose de bling-bling, de direct, que tu vas toucher. Oh, le royaume de Dieu est insaisissable. Puisqu'il repose sur Dieu lui-même. et tu vas écouter les mauvaises voix qui te vont te proposer quelque chose de saisissable. Mais écoute, si tu donnes telle somme d'argent, tu auras telle bénédiction. Voilà, parce que c'est direct. L'une des grandes tentations, vous allez bien aimer réaliser que tout est dans la Bible. Tout est dans la Bible. Quelle est l'une des grandes tentations auxquelles Jésus-Christ a fait face? C'est la proposition du royaume. Satan a dit à Jésus, « Je te donnerai les royaumes de la terre si tu te prosternes devant moi. » Donc, il lui a proposé le royaume dans la logique terrestre. Jésus a dit, « Non, mon royaume ne ressemble pas à ce que tu me proposes. » Donc, Satan, même dans les choses de Dieu, va venir nous proposer le règne dans une logique terrestre. En te disant, nous, quand on était jeunes chrétiens, on nous disait, tu as besoin de puissance. Mais bien aimé, Dieu sait qu'on a besoin de puissance pour le servir. On n'a pas besoin de quelqu'un pour nous rabâcher la chose sans cesse, on a besoin de puissance. C'est comme si, donc, nous, on refuse. Non. Si on refusait, d'accord, on dit on n'a pas besoin de puissance. Mais nous, on ne refuse pas. Nous venons à Dieu, nous devenons chrétiens et nous voulons le servir. Et quelqu'un qui vient te rabâcher, tu as besoin de puissance. Tu as besoin de puissance. Et nous, en tant qu'humains, puisqu'on n'est pas encore des chrétiens matures, tu te dis, oui, j'ai besoin de puissance pour servir Dieu, pour faire des miracles. Comme ça, les gens vont se convertir. Mais nulle part, c'est écrit dans la Bible que c'est les miracles qui peuvent convertir quelqu'un. Mais on t'a mis ça d'une manière subtile. C'est ce que Satan a proposé à Jésus. Il a dit, je vais te donner le royaume de la terre. Jésus a dit, mon royaume ne ressemble pas au royaume de la terre. Et quand on était jeune chrétien, on nous dit ça. Et comment nous manipuler? Un prétendu serviteur de Dieu va venir. Il va donner son témoignage. Je prêchais l'évangile, mais il n'y a rien qui se passait. Jusqu'au jour où j'ai assisté à un séminaire fait par un tel. Et à la fin, j'ai insisté pour qu'il m'impose les mains. Parfois même, on dit que je lui ai donné une offrande spéciale. Il m'a imposé les mains depuis le soir même quand je suis rentré à la maison. Ma femme ne m'a pas reconnu. Je soufflais comme ça, l'eau est devenue chaude. Voilà. Alors quand tu entends ça, tu te dis, bon, c'est que l'imposition des mains d'un tel, c'est ça qui donne la puissance. Moi aussi, je vais le chercher. C'est comme ça qu'on s'est fait avoir. On a voulu le royaume selon la terre. Avoir une puissance que tu vas gérer comme une épée, comme un couteau qu'on a. Quand David a voulu combattre Goliath, qu'est-ce qu'on lui a proposé? On lui a proposé l'armure. Quelle armure du roi lui-même? Parce que Saül, comme je l'ai souvent dit, il était presque plus grand que tous les Juifs. Il était vraiment costaud lui aussi. Et donc, logiquement, les gens se sont dit, celui qui doit se battre contre Goliath doit prendre aussi la plus belle armure. Le plus gros javelot. Et quand David a essayé, David a dit, non, ça c'est pas pour moi ça. Laissez-moi tranquille. Moi j'ai quoi? J'ai la foi. Nous allons y arriver. David a dit, j'ai la foi. Il a pris selon la foi. Il a pris les outils qu'il a l'habitude d'utiliser, bien-aimé. Moi, le premier, nous sommes là, on peut se dire, ah, si on pouvait avoir des millions, comme ça on va prêcher du haut de la tour Eiffel. Mais Dieu dit, mais oui, mais là tu as la bouche. Qu'est-ce qui t'empêche de prêcher à ton voisin d'immeuble? Déjà, la bouche, tu n'utilises pas, tu veux seulement aller utiliser la tour Eiffel, monter. Voilà, bien aimé. David a dit, écoutez, moi je vais utiliser les outils que j'ai l'habitude d'utiliser. Je vais prendre des cailloux. Mais qu'est-ce que les cailloux peuvent faire? Mais d'ailleurs, quand,
Quand Goliath voit David, il dit, mais oh, mais qu'est-ce que ce petit-là vient faire? David, il dit, mais je viens te tuer. Oh! Goliath a dit, mais c'est pas possible. Tu me prends pour qui? Pour un chien et amener des pierres contre moi? Mais oui, c'est une seule de ces pierres, un seul de ces cailloux qui a tué Goliath. Le royaume de Dieu ne ressemble pas au royaume de la terre. Dieu fait comme il veut. Et il va utiliser des choses simples, des choses de tous les jours. C'est ainsi que nous, dans notre logique, ça serait quoi? Jésus venant, il allait utiliser qui? Il allait utiliser les scribes, les pharisiens pour faire son troupeau de 12 apôtres et puis semer la parole. Mais non, Jésus qui savait que son travail c'était quoi? Son travail c'était de pêcher les âmes et de les amener au ciel. Mais lui, il a choisi quoi? Mais ceux qui le font déjà, ceux qui pêchent des poissons. C'est tout. Donc lui, il n'est pas allé loin. C'est nous qui compliquons les choses. Jésus a dit, mon travail, c'est quoi? C'est pêcher les âmes. Ah ben, qu'est-ce qui pêche ici sur la terre? C'est les pêcheurs. Il veut partir chercher les pêcheurs de poissons. Parce qu'eux, ils allaient comprendre c'est quel boulot on leur donne. Et il a dit à Pierre, je ferai de toi un pêcheur d'hommes, désormais. Dieu, quand il cherche un berger pour Israël, il a pris qui? Nous, dans notre esprit, on avait, mais il allait prendre un homme fort, un grand guerrier. Lui, il a pris qui? Il a pris David, qui était un berger de moutons. Il sait que lui, il allait comprendre de quoi il s'agit. S'il avait pris un grand soldat, un grand guerrier, ce monsieur allait passer son temps à se battre. La preuve, Saül était costaud, il a passé son temps à faire des guerres et à ne plus écouter Dieu parce qu'il était fort physiquement. Dieu est parti prendre David parce que David allait comprendre son système, parce que David était habitué déjà à paître un troupeau. Et il a pris. C'est comme ça, bien-aimé. Dieu va se servir des choses de tous les jours. Nous, on veut plus. Parce que on a envie de rivaliser avec les royaumes de la terre. En tant que prédicateur, on a envie de faire quoi? De rivaliser avec celui qui fait le journal de la journal télé 20h. Il dit, mais oui, mais comment lui, il prêche à 20h devant tout le monde, moi je prêche devant 15 personnes. Mais Dieu dit, mais oui, moi, en prêchant devant 15 personnes, tu remportes de plus grandes victoires. On dit, mais non, il faut que beaucoup de gens entendent. Mais oui, mais Dieu a son système. Tu vas parler à une personne, peut-être c'est cette personne-là qui va parler à des millions. Mais toi, tu as parlé à la bonne personne. Et cette personne-là a parlé plus tard à des millions. Ça, c'est le système de Dieu. Ça ne fonctionne pas comme le système de la terre. Où c'est l'action visible, où c'est l'action qui épate les yeux qui domine. Le système de Dieu fonctionne dans la simplicité. Je vous ai donné la bonne comparaison, c'est l'air. Une autre comparaison, c'est l'eau. Jésus-Christ compare sa puissance à la puissance de l'eau. L'eau, elle peut être tranquille quand elle est dans une bouteille. Elle est tranquille. Quand vous voyez l'eau dans un ruisseau, il est tranquille, il coule doucement. Mais cette même eau peut devenir puissante quand les vagues se lèvent. On a vu le tsunami. Cette eau, lorsque vous êtes dans les rapides, vous approchez des chutes d'eau. Vous voyez une puissance. D'ailleurs, c'est ce qu'on utilise pour faire des barrages hydroélectriques. C'est la même eau là que nous trouvons tranquille dans une bouteille. Cette même eau est utilisée pour nous donner l'électricité. Jésus compare sa puissance à de l'eau. Il dit, des fleuves d'eau vive couleront du sein de ceux qui croiront. Bien-aimés, acceptons le royaume des cieux tel que lui se présente. Ne cherchons pas à faire le royaume des cieux ressembler au royaume de la terre. Jésus a refusé ça. Quand le diable lui a proposé ça, il a dit non. Mon royaume se fera à ma manière. Et Jésus a accepté pendant 3 ans et demi d'être simple. Simple comme un esclave. Mais sachant qu'il était le roi de l'univers. Parce qu'il devait respecter les principes du royaume des cieux. Qui ne vient pas de manière à frapper le regard. Et quand on parle de Jésus dans le livre d'Ésaïe 53, on dit qu'il n'avait pas de regard ni de beauté pour attirer. Il était juste simple. C'est pourquoi quand il a prêché dans la synagogue de Nazareth, les gens ont dit, mais c'est le fils du charpentier. Depuis quand il est devenu Messie? Jésus a dit, c'est normal, vous allez m'appliquer le proverbe. Voilà, médecin, guéris-toi toi-même. Voilà. Mais moi, je vous l'ai dit, c'est moi. La parole de Dieu vient de s'accomplir. Mais ils n'ont pas accepté parce qu'ils le connaissaient quand il était enfant, le fils du charpentier. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à impressionner. C'est pourquoi seuls les humbles auront accès au royaume de Dieu. Parce que les humbles sont prêts à accepter le positionnement du maître. Ils sont prêts à accepter la simplicité. Mais comme le royaume de Dieu vient dans la simplicité, les orgueilleux rejetteront toujours le royaume de Dieu. Au fait, l'action du royaume de Dieu est faite de sorte que les orgueilleux n'en profitent pas. C'est fait exprès. Bien-aimés, imaginez qu'il y ait 4 ou 5 articles dans Le Parisien ou dans Aujourd'hui qui témoignent que 4 personnes étaient entrées dans l'église Bethléem, ils étaient venus SDF ou RMiste, je ne sais pas comment on parle de RSA, hein. Enfin, les gens de RSA, ils sont entrés en 2012 bénéficiaires du RSA et en 2013, ils sont millionnaires. Bien aimé, on n'aura plus de place ici. 4 articles dans le journal, bien dans le journal télévisé, David Poujadas, bon, on vous présente, il y a quelque chose de spécial qui s'est fait à Rouen, là-bas, il y a on entre SDF, on en sort millionnaire. Je peux vous dire qu'on n'aura plus de place. Donc même les mauvais, les escrocs, les dealers, tout le monde va venir ici. Même les marabouts vont dire, bon, je mets mes fétiches dans mes chaussettes, je viens, je reçois d'abord les millions et je vais redevenir marabout après. Or, ce n'est pas le but de Dieu. Le but de Dieu, c'est de sauver ceux qui veulent vraiment être sauvés. Ceux qui veulent vraiment être purs, ceux qui veulent lui ressembler. Il sait que s'il vient dans le bling-bling, il vient de manière à frapper le regard, tout le monde va venir. Parce que tout le monde cherche ça. Tout le monde cherche la gloire terrestre, tout le monde cherche le visible. D'ailleurs, un frère m'a posé la question, hier ou avant-hier, mais oui, mais pasteur, c'est écrit, Jésus dit qu'il parle en parabole de sorte que les gens ne comprennent pas. Parce que s'ils comprennent, ils vont se convertir et il va les guérir. Mais c'est pas bon ça. Moi j'ai dit non. C'est que Jésus veut dire que si il manifestait clairement qui il est, tout le monde viendra, même les mauvais. Ils se diront, mais c'est chez lui que se trouve la puissance. On a vu comment ils ont suivi Jésus quand il a multiplié les pains. Et il est obligé de leur dire, mais vous me suivez parce que vous avez mangé le pain. Vous ne me suivez pas parce que vous comprenez que je vous amène au ciel, que je suis le Fils de Dieu, parce que je vais sanctifier vos vies. Non, vous me suivez parce que vous avez mangé le pain. Donc si Jésus se présentait clairement avec sa puissance, tout le monde va l'accepter officiellement. Mais peu de gens vont l'accepter dans le cœur. Or, si Jésus lâche les gens qui l'ont accepté officiellement, nous serons les premiers à dire, mais Seigneur, ils t'ont accepté, comment tu les lâches? Alors il faudra encore qu'il nous explique que lui, il a lu dans les cœurs, que les cœurs étaient... On va dire, mais nous, on n'a pas vu dans les cœurs, c'est toi qui vois dans les cœurs. Alors, le royaume de Dieu est présenté de manière à ce que, visiblement, les orgueilleux le refusent. Ils disent, non, nous, on ne veut pas de ce genre de royaume. Nous, on ne veut pas de ce genre de Dieu. Et c'est comme ça que le royaume de Dieu est présenté. Qu'est-ce qui est dit sur les pharisiens dans Luc 7, 30? Ils ont arrêté le plan de Dieu sur leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas laissés baptiser par Jean-Baptiste. Voilà. Les pharisiens bien établis au temple, bien établis dans la politique, des hommes de qualité reconnus religieusement, de qualité. Ils voient pour eux déjà un petit en âge, un Jean-Baptiste frisant la trentaine et qui vient du désert avec une peau, habillé avec une peau, commencer à baptiser tout le monde. On me dit, mais non, nous, on ne va pas laisser faire baptiser par ce petit-là. Et non seulement ce petit-là, c'est SDF.
Mais c'est écrit dans Luc 7, 30, ils ont bloqué le plan de Dieu sur leur vie en refusant de se faire baptiser par Jean-Baptiste. Ils étaient trop orgueilleux pour voir en Jean-Baptiste le prophète véritable de Dieu, le plus grand de tous les hommes sur la terre. C'est ce que Jésus dit de lui. Il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Qui d'autre baptisera encore le Seigneur? Personne. Mais eux, ils ont été incapables de remarquer Jean-Baptiste parce qu'ils étaient orgueilleux. Il nous est dit que même les publicains, les gens mauvais, se sont laissés baptiser par Jean-Baptiste. Nous lisons maintenant Matthieu 21. Matthieu 21, à partir du verset 28. Que vous ensemble, un homme avait deux fils, et s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. Lequel de deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repenti pour croire en lui. Jésus dit, mais voilà, qui va aller au ciel? Est-ce que c'est celui qui fait des grands discours d'amour ou c'est celui qui obéit? C'est celui dont le cœur est touché. Le fils qui avait dit non a vu son cœur touché quand même. Et il s'est repenti, il est parti travailler. Mais celui qui a vu, oui, peut-être avec poésie. Mais il n'est pas parti quand même. Et Dieu dit, mais qui est-ce qui a fait la volonté de Dieu? C'est le premier, de son Père, c'est le premier. Il ne suffit pas de parler. Il faut obéir. Et Jésus ajoute, les publicains et les prostituées vont vous précéder au ciel. Parce qu'au moins, la prostituée se sent sale, elle ne se sent pas bien, et elle s'humilie devant un envoyé de Dieu. Mais vous, qui êtes longtemps dans les choses de Dieu, fils peut-être de pasteur, cousin d'apôtre, vous avez refusé de vous humilier devant la parole de Dieu. Parce que vous êtes rempli de toutes sortes de philosophies. La simplicité est partie. Et lorsque la simplicité s'en va, on ne saisit plus la lumière divine. Et on devient un journaliste chrétien. On commence à analyser ce que font les uns et les autres. Mais on ne s'analyse plus soi-même. Et c'est ça la mort spirituelle. On devient professionnel des erreurs des autres. On commence à analyser tel courant, telle personne, tel autre pasteur. Et on refuse d'être face nous-mêmes à la parole de Dieu et de prendre notre décision. Et Jésus dit, les publicains vont vous précéder parce que les publicains sont conscients qu'ils sont des voleurs. Mais vous, vous vous croyez juste. Le royaume de Dieu vient, bien-aimé, en douceur, dans la simplicité. C'est pourquoi notre frère Paul nous dit dans Romains 12, ne soyez pas attirés par ce qui est élevé, mais soyez attirés par ce qui est simple. Dès que vous êtes attirés par ce qui est élevé, ce qui fait le bling-bling, vous finirez mal. Le diable vous aura. C'est écrit dans Matthieu 24:24 que le diable fera des prodiges et des miracles de sorte qu'il séduira même s'il était possible des élus, des vrais chrétiens. Quand quelqu'un va chercher du bling-bling, tout ce qui épate l'œil, tout ce qui frappe le regard, il finira par tomber dans le piège du diable. Il finira par ça. Mais si quelqu'un cherche vraiment Dieu, Dieu se révélera à lui. Et il aura la puissance du Saint-Esprit. Et bien aimé,
il verra la gloire de Dieu. Nous ne sommes pas encore en train de prêcher la pauvreté avec Dieu ni le manque de miracles. C'est faux. Dieu est glorieux et tout-puissant. C'est lui qui est au-dessus de tout. Mais il est simple dans son action au milieu de nous. Nous devons accepter cette simplicité, y entrer et vivre sa gloire. Sa gloire se manifestera comme nous vivons aussi sur terre. On ne vit pas que des tempêtes. Bien-aimé, imaginez qu'il y ait des tempêtes tous les jours. Qui sera content? Personne. Imaginez qu'il y ait des fleuves d'eau vive tous les jours. Qui va aller nager maintenant? S'il y a tout le temps des chutes d'eau, des cascades, des rapides, qui peut nager? Personne. Il nous faut la plupart du temps l'eau douce, l'eau simple, et puis de temps à autre, l'eau forte avec de hautes vagues pour faire le surf, sans se faire manger par un requin. Mais si tout le temps il y a des hautes vagues, mais il y a des gens qui ne savent pas nager, ils vont faire comment? Même ceux qui savent nager, ils seront tout le temps en danger. Donc Dieu ne peut pas tout le temps s'exposer par une puissance visible. Il va le faire dans certaines périodes. Mais ces périodes appartiennent à sa souveraineté. Vous savez, Jésus nous dit une phrase. Il dit, mais du temps d'Élisée, il y avait plusieurs lépreux en Israël. C'est connu, les lépreux étaient mis dehors. Mais Élisée n'a guéri aucun lépreux juif. Mais il a guéri un étranger, un lépreux syrien. Mais nous, quand on lit l'histoire d'Élisée, sans avoir le commentaire de Jésus, on a l'impression qu'Élisée passait son temps à guérir des lépreux. Puisqu'on voit, il guérit un lépreux là, il fait surnager une pièce métallique de l'autre côté, il prie, il met une poudre dans une nourriture empoisonnée, la nourriture devient normale. Donc on voit Élisée, comme s'il passait son temps à faire des miracles, Jésus nous dit non, il ne passait pas son temps à guérir les lépreux. Il n'a guéri qu'un seul lépreux de sa vie. C'est ce que Jésus nous dit, hein. Ce n'est pas moi. Il dit il n'a guéri qu'un seul, le lépreux syrien. Cependant, quand tu lis, tu as l'impression qu'Élisée vivait des miracles. Non, Dieu va faire ses miracles. Il a ses périodes de tempête, de vent, il a ses périodes de chute d'eau, de rapide, mais en général, il est dans la douceur. Parce que Dieu veut atteindre quoi? Il veut atteindre ton cœur, il veut atteindre mon cœur. Et le cœur n'écoute que dans la paix. Le cœur n'écoute pas dans le mouvement. Dans le mouvement, c'est la chair qui suit. C'est clair. Le cœur suit les choses tranquilles. Et Dieu veut toucher le cœur. Dieu ne veut pas nous toucher notre émotion. Il veut toucher notre cœur. Et pour cela, il va venir dans la simplicité. Et les gens qui sont simples vont l'accepter pour aller au ciel. Mais les gens qui sont orgueilleux, qui veulent épater, qui veulent du bling-bling, qui veulent se sentir forts, il y en a aussi, on ne veut pas dire que forcément ils sont orgueilleux, mais ils le sont devenus. Il y en a qui ont été négligés quand ils étaient petits. Ils étaient des gens frappés, maltraités, diminués quand ils étaient petits. Et quand ils viennent au Seigneur, ils veulent comme se venger de ce qu'ils étaient autrefois et avoir un don, faire quelque chose d'important, de spécial. Et ce n'est pas bon. Du fait qu'on a le Seigneur bien-aimé, on est comblé. Puis Paul a dit, nous devons nous glorifier d'avoir le Seigneur. Ce n'est pas que personne ne se glorifie par lui-même, mais qu'il se glorifie, que chacun se glorifie d'avoir le Seigneur. Avoir le Seigneur, c'est tout avoir. Pourquoi tu veux avoir en toi-même une puissance personnelle en dehors du Seigneur pour te sentir bon chrétien ou fort? Non, quand tu as le Seigneur, tu as tout. C'est la vérité. Et le Seigneur se glorifiera dans ta vie. Il manifestera sa puissance. Mais ça ne sera pas comme un amusement. Ça ne sera pas comme les choses de la terre. Ça ne sera pas comme les royaumes de la terre où les gens font, depuis qu'ils ont commencé leur ministère, ils ne font que des réunions de miracles. Réunions de miracles. Venez écouter les miracles. Venez vivre vos miracles. Réunions de miracles. Donc, depuis qu'il a commencé son ministère, c'est que réunions de miracles. Bien-aimé, ça, ce n'est pas Dieu. Jésus, à un moment, on lui a dit de faire les miracles. Jésus a dit, je ne vais pas faire des miracles
Le seul miracle que je veux faire, c'est le miracle de Jonas. 3 jours, je serai dans le ventre de la terre. Le 3e jour, je ressusciterai. Dieu n'est pas un Dieu d'amusement qui va passer son temps à amuser les gens par du spectacle. Dieu veut toucher le cœur. Il ne veut pas s'amuser. Il veut sauver les gens pour les amener au ciel. Il ne veut pas amuser les gens. Vous, vous croyez bien aimé que Jésus n'avait pas les moyens de s'acheter un château, de se construire un grand bâtiment? Il avait tout ça. Il pouvait le faire. Vous vous souvenez qu'il a demandé à Pierre d'aller pêcher et dans le poisson, il y avait de l'argent pour payer les impôts. Mais Jésus donc pouvait passer son temps à pêcher et sortir de l'argent et faire tout ce qu'il voulait. Mais ce n'est pas le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu ne vient pas de cette manière-là. Nous ne sommes pas contre qu'un frère ou une sœur ait un château ou bien une très belle voiture. Mais nous disons tout simplement que nous ne sommes pas tous appelés à ça. Que chacun fasse ce que Dieu lui demande de faire à un moment donné. Nous ne sommes pas appelés tous à être riches. Nous sommes appelés tous à connaître Dieu, à vivre de lui. C'est ça l'appel de Dieu. Maintenant que parmi nous, il y ait des gens riches, des gens voilà, qui ont des choses par la grâce de Dieu, nous bénissons le Seigneur, mais ça ne doit pas devenir un système où tous nous voulons la même chose. Tous nous voulons des garçons comme enfants. Nous ne voulons plus de filles. Maintenant, quand on n'a ni garçon ni fille, on pleure, on veut des enfants. Mais quand Dieu donne les filles, ah, il n'y a que les filles. Mais... Non, bien-aimé, chacun a sa grâce. Laissons Dieu faire avec nous tous. Mais dans tous les cas, tout ça, ça nous appartient parce que c'est le royaume de Dieu. Ce que le frère a, c'est à moi aussi, puisque ça fait partie du royaume de Dieu. C'est la vérité. Mais si tu entres dans la jalousie, tu te sors toi-même du royaume de Dieu. Sois content de ce que Dieu fait avec l'autre et accepte cela dans la simplicité, comme étant quelque chose qui se fait dans le royaume du Seigneur. C'est pour toi aussi, c'est ta bénédiction. Puisque je me souviens de Richard Rembrandt qui était en prison, dans une prison prévue pour 20 personnes, eux ils étaient à 100 dans la cellule. Prévue pour 120 personnes, eux ils étaient à 100 dans la cellule. Et ils mangeaient les restes de la nourriture des cochons. Et avant de manger, il bénissait le Seigneur pour les chrétiens américains qui avaient de grandes omelettes à manger, de bons gâteaux à manger. Il disait, Seigneur, tu es bon, tu donnes ça à nos frères américains. Et je te remercie aussi de nous donner le reste du cochon parce que c'est ta grâce qui veut qu'on expérimente cela pour vivre ta gloire. Certains diront, oui, mais c'est une prière juste pour faire le bon chrétien. C'est faux. Quand Richard Rembrandt est sorti de prison, où il a commencé aussi à manger de bonnes omelettes, il a prié pour que Dieu le ramène en prison. Et vous savez pourquoi? Parce qu'en prison, les gens se convertissaient dans la souffrance. Vous savez, moi, j'aime, vous savez, une des choses que j'aime le plus, après l'adoration, ce que j'aime le plus, c'est les nouveaux chrétiens, les conversions. Parce que quand quelqu'un se convertit, c'est comme si Jésus est frais. Parce que nous, les vieux chrétiens, bon, Jésus a pris quelques cheveux gris en nous, mais... Dans le jeune chrétien, tu as l'impression que Jésus est à côté de toi. Parce que c'est des chrétiens qui n'ont pas le temps de passer de philosopher. C'est des chrétiens qui sont simples, les nouveaux chrétiens. Ils sont dans la fraîcheur de l'amour de leur Seigneur et ils s'expriment comme des enfants. Ils sont naturels. Et c'est beau. Et c'est beau. Tandis que le vieux chrétien, dès qu'il te voit avec un peu de puissance, un peu de foi, « Ah, mais nous aussi, on était comme toi. Mais pourquoi ? Et alors ? Si toi, tu t'es découragé, tu penses que l'autre aussi va se décourager. Nous aussi, on est passé par là. Mais ça veut dire quoi, bien-aimé ? Au lieu de profiter de la nouvelle fraîcheur, « Oh, nous aussi, on était comme ça. » Non, c'est pas bon. On voit un jeune pasteur qui commence. Toi, tu as 65 ans. Ah bon ? C'est normal que toi, tu fasses ce que tu fais parce que tu es jeune. C'est faux. Ça n'a rien à voir avec la jeunesse. Dans Proverbe 3, 5 à 8, c'est dit que Dieu rafraîchit les eaux. Si tu es simple, tu feras les choses. Tu vas sauter comme une biche. Au nom de Jésus-Christ. Le royaume des cieux vient de cette manière-là. Dans la simplicité. Il ne vient pas de manière à frapper les regards. Il ne vient pas semblable au royaume de la terre. Vous imaginez Joseph, prisonnier. Joseph, prisonnier. Qui c'est qui a eu besoin de Joseph? Qui c'est qui a eu besoin de Joseph? C'est le roi. Le roi dans son palais a eu besoin de Joseph, prisonnier. Maintenant, qui est le roi? C'est Joseph. Puisque le plus grand, c'est celui qui aide l'autre. Et qui a aidé? C'est Joseph qui a aidé. Qui a aidé toute l'Égypte? C'est Joseph. Qui était maintenant supérieur? C'est Joseph. Mais il était en prison. Dieu donne un songe au roi, au pharaon, et c'est Joseph qui explique et qui donne la solution. C'est ça le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, on doit être très attentif. Moi, je suis attentif à tout. Parce que Dieu fait comme il veut dans le royaume de Dieu. À plusieurs reprises, Dieu m'a parlé à travers un païen sans qu'il se rende compte. Il m'a dit une phrase et j'ai dit, aïe, Dieu m'a coincé là. Mais lui ne sait pas. Lui ne sait pas. Dieu parle souvent en utilisant des enfants. Mais quand on est orgueilleux, on ne veut pas écouter. Dieu parle en utilisant parfois des gens qui ne connaissent rien. Mais parce que Dieu veut parler qu'aux humbles, il va nous obliger à nous humilier pour les écouter. À nous d'écouter. Au lieu d'aller chercher forcément sur Internet un pasteur de 20 000 membres, avec 20 000 membres, écoute la parole simple qui sort des gens autour de toi. Jésus dit, pourquoi vous allez chercher à gauche, à droite? C'est au milieu de vous, le royaume des cieux. Je ne suis pas loin, au milieu de vous. Alors, que faire, bien-aimé? Première chose, croire que Dieu est tout-puissant. Dieu est tout-puissant et rien n'échappe à son contrôle. Ça, c'est très important. Nous voulons, nous tous, le salut des membres de nos familles. Nous voulons, nous tous, le salut de la Normandie. Le salut du monde. Nous sommes offusqués de voir ce que nous voyons à la télé. Et parfois, on se dit, oh, il n'y a plus de solution, c'est faux. Dieu est au contrôle. Ne nous décourageons jamais. Dieu est au contrôle. Continuons à faire notre part. Mais ça commence par croire que Dieu est au contrôle. Tu priais pour une cousine et le jour où tu la vois, tu reçois une injure, tu reçois une baffe, tu reçois un mauvais comportement de sa part et tu te dis c'est peine perdue, c'est faux. Dieu est en contrôle. Jamais ne dire que c'est peine perdue. Abraham a espéré contre toute espérance. Il est écrit, tout est possible à celui qui croit. Et dans Luc 1, 37, rien n'est impossible à Dieu. La chose même qui paraît très difficile, comme on a partagé la parole hier avec les bien-aimés à Lisieux, Jean 16, 24, Jésus dit, jusque-là vous n'avez rien demandé, demandez. Mais il leur a dit à quel moment? Au moment où ils s'en allaient, ils étaient tristes. Ils disent, vous êtes tristes, pourquoi? Moi, je m'en vais, mais demandez tout en mon nom, vous aurez. Et quand vous demanderez, vous aurez, votre joie sera parfaite. Jésus voulait dire quoi? Je m'en vais, je vais être absent physiquement. Mais à chaque fois que vous allez demander, vous serez exaucé. Et quand vous serez exaucé, vous ne regarderez pas qu'à votre exaucement, mais à la main aussi qui donne. Et vous vous rappellerez de moi. Vous saurez que je suis à côté de vous. Donc, demandons, bien-aimés. Dieu est au contrôle. Que rien ne freine notre intercession. Quand la Chine était interdite aux évangélistes, aux gens qui prêchaient la bonne nouvelle, le frère André a dit, on nous empêche d'entrer en Chine, mais ils n'empêcheront pas la prière d'entrer.
Il faut prier, demander, parler. Et aujourd'hui, la Chine fait partie des pays où il y a le plus grand réveil chrétien. Parce qu'il y a des gens qui ont cru que Dieu était tout puissant, il était au contrôle. Malgré les apparences, il est au contrôle. Deuxièmement, bien-aimés, nous avons besoin de foi. Nous devons croire. Tout nous est donné en fonction de notre foi. Nous devons croire. Croire en ce qui est écrit dans la Bible. Que ça va s'accomplir. Et même quand ça ne s'accomplit pas, c'est quand même vrai. Voilà. Puisque Dieu ne se trompe pas, il ne ment point. Et troisièmement, bien-aimés, nous devons être humbles. Et cette humilité nous amènera vraiment à écouter Dieu. Et avec la foi et l'humilité, nous prierons le Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi les vrais chrétiens, ce sont des gens qui font beaucoup plus confiance en leur prière qu'en leur formation, qu'à toutes leurs actions. Ils savent que Dieu est Tout-Puissant. Et quand on prie Dieu, il agit. Et ils font beaucoup plus confiance à la prière. Ils prient. Quand il y a un problème, ils parlent au Seigneur. Prier, ce n'est pas forcément faire des longues prières en se répétant. Mais c'est dire à Dieu, parler à Dieu. Dis à Dieu ton problème. Explique-lui. Montre-lui. Fais réfléchir Dieu. C'est lui qui le dit. Hein? Dans Ésaïe 43, 26, il dit, « Rappelez-moi mon souvenir. » Fais réfléchir. Un jour, j'étais au Maroc, on priait, on était dans l'équipe d'évangélisation, on priait. Et puis, il y a un frère qui priait et dit, « Seigneur, je ne vois pas pourquoi, quel intérêt tu auras à laisser les âmes se perdre. » J'ai dit, « Ça, c'est la vraie prière. » Il fait réfléchir Dieu. Quel intérêt tu as de voir les âmes se perdre? Je crois que ce n'est pas de ton intérêt. Alors, Seigneur, exauce-nous, là où nous partons, que les âmes se convertissent. Voilà! Il parle à son Dieu, il fait réfléchir, parce qu'il est convaincu qu'il est tout-puissant. Il a la foi et il est humble pour savoir que Dieu, il est au-dessus de lui. Mais Dieu nous a demandé de rappeler, de lui parler, de lui rappeler ce qu'il a écrit. Et on doit le faire. Le royaume de Dieu est déjà là, bien-aimés. Parce que Jésus a dit, je ne vous laisse pas seul. Je vous envoie le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est au milieu de nous. Le Saint-Esprit est dans le monde pour convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Humilions-nous, croyons en cela et laissons Dieu nous guider. Laissons Dieu nous diriger. Ne cherchons pas à diriger Dieu. Laissons Dieu nous diriger et nous verrons la gloire de Dieu. Nous réaliserons la présence du royaume de Dieu au milieu de nous. Prions le Seigneur. Éternel grand Dieu, nous te remercions de ce que tu nous rappelles que tu es là et que ton royaume est puissant, même s'il est invisible, il est puissant, il est présent et tu es toujours en action. Les miracles ne sont pas finis, ils existent encore. Ta gloire ne s'est pas arrêtée, elle est toujours présente. Mais tu cherches par qui ça va passer. Les gens qui vont accepter ton système à toi, les gens qui vont accepter ta façon de faire, les gens qui vont accepter les Jean-Baptiste d'aujourd'hui, les gens qui vont accepter la simplicité et non leur logique personnelle. Seigneur, aide-nous à te laisser nous guider, que nous apprenions à te laisser nous guider. Aide-nous à être vainqueurs du raisonnement charnel qui ne nous donne qu'à nous l'avantage. Que nous soyons méfiants à chaque fois que nous nous donnons raison. Que nous soyons méfiants par rapport à cela. Que nous soyons à ton écoute. Et à chaque fois que notre cerveau nous donne raison, que nous examinions davantage les choses, Seigneur. Oh Dieu, aide-moi t'atteindre. Quel Dieu est grand comme Dieu, a toujours, ô Éternel, ta parole subsiste à jamais. Ô Dieu, aide-moi t'atteindre. Amen. Que Dieu est grand comme Dieu, à toujours, ô Éternel, ta parole subsiste à jamais.
Mieux vaut pour moi.
Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que mille objets d'or et d'argent. Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. Donne-moi ta sagesse.
Mieux vaut pour moi.
Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que mille objets d'or et d'argent. Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. Donne-moi ta sagesse. Ô Dieu, aide-moi t'atteindre. Quel Dieu est grand comme Dieu, à toujours, ô Éternel, ta parole subsiste à jamais. Ô Dieu, aide-moi t'atteindre. Quel Dieu est grand comme Dieu, à toujours, ô Éternel, ta parole subsiste à jamais.
Quiconque aura soif,
quiconque aura soif, qui vienne à Jésus, il est l'eau de vie, l'arche du salut, il est le chemin qui mène au Père. Adorons-le, il est vivant.
Quiconque
aura soif, qui vienne à Jésus. Il est l'eau de vie, l'arche du salut. Il est le chemin qui mène au Père. Adorons-le, il est vivant. Ô Dieu, aide-moi t'atteindre. Quel Dieu est grand comme Dieu, à toujours éternel, ta parole subsiste à jamais.
Ô
Dieu, aide-moi t'atteindre. Quel Dieu est grand comme Dieu, à toujours, ô Éternel, ta parole subsiste à jamais. Ô Dieu, aide-moi t'atteindre. Quel Dieu est grand comme Dieu, à toujours, ô Éternel, ta parole subsiste à jamais.
À jamais, tu es Dieu. Gloire à ton nom, béni soit ton nom, Seigneur. À toi la gloire, la louange, au siècle des siècles. Aide-nous à accepter les principes du royaume de Dieu. Aide-nous à accepter ton royaume tel que toi, tu nous le présentes, à ne pas nous laisser emporter par des comparaisons qui viennent spontanément, des comparaisons par rapport aux façons de la terre, au royaume de la terre. Nous voulons, Seigneur, la vérité. À toi la gloire, la louange, au siècle des siècles. Béni soit ton nom. Seigneur, que tu nous aides à appliquer ce que nous écoutons. Au nom de Jésus. Amen.